Troisième volet en votre compagnie, Philippe Solers, aujourd'hui, après hier et avant-hier, où nous parlions tantôt de votre rapport à l'espace, tantôt de votre rapport au temps, de ce temps élargi que vous souhaitez, que vous pratiquez finalement par l'écriture, en vous plaçant aux côtés de ceux qui comptent pour vous depuis toujours, ces écrivains qui sont au cœur de votre dernier roman, Les Voyageurs du Temps, aux éditions Gallimard, et que vous fréquentez par là même. Aujourd'hui, pour ce troisième volet, si vous êtes d'accord, nous arrêter sur ce que nous avons déjà évoqué comme ça au passage, c'est ce goût chez vous pour la vie qui surgit, le temps qui surgit. Une chose frappe d'emblée dans votre texte, c'est qu'il est construit sur des notations, sur des paragraphes, sur des séquences qui se nourrissent de citations. Alors on se dit, on a là un journal de bord, un journal de lecture, on n'a pas un roman. Comment est-ce que les deux s'articulent? Est-ce que le roman s'accommode de ce rapport à la lecture pour vous?
Le roman tel que je le conçois, moi, et qui n'est pas, encore une fois, le roman que souhaite le marché, qui est le fait qu'un livre doit déboucher sur un film et que pendant qu'on le lit, au lieu d'écouter, on regarde un film, ça, je n'aime pas cet endormissement. C'est pour ça que je cite en effet la fameuse phrase de Lautréamont, Ducasse, les romans qui s'accroupissent aux étalages, n'est-ce pas? Voilà. Alors vous savez très bien qu'il y a une inflation absolument révélatrice. En fait, il y a 600, 700 romans qui paraissent tous les ans, etc., qui disparaissent ailleurs aussitôt. Tout ça dans un marketing effréné où seuls 7 ou 8 ont la chance de surnager. Quel massacre de romans. La société massacre des romans. Elle massacre aussi des films. Elle massacre des séries télévisées. Voilà. Tout ça s'est annulé presque aussitôt que ça a été produit. Le temps, ça dure. Le roman qui est intéressant, comme la vie que l'on mène si on est un tout petit peu en éveil, enfin, parce que sinon on dort. On dort. Vous savez, Rivière écrit à Proust, vous ne serez jamais compris de ces gens, ils parlent des académiciens, ils parlent de tout le monde, parce qu'ils dorment trop profondément. Alors, vous savez que c'est une remarque de Pascal toute bête, c'est étonnant. Les hommes ont choisi de ne pas penser à la mort parce que, voilà, ce sont des somnambules. Il y a quelque chose de surnaturel là-dedans, cette affaire. Pascal se réveille, il voit des somnambules partout. C'est étonnant. Eh bien, je crois que c'est pas pris au sérieux. Je crois qu'il y a là une résistance très profonde de ce que j'appelle les parasites. C'est-à-dire, les parasites, c'est la société tout entière qui se prend tellement au sérieux qu'elle est devenue Dieu lui-même. Vous savez que Dieu est mort, comme a dit Nietzsche, en effet, on ne sait plus très bien où le trouver. On ne le trouvera pas dans le cosmos, c'est sûr, et ni ailleurs. Mais Dieu a eu lieu, n'est-ce pas ça? Dieu a eu lieu quand Dante écrit la Divine Comédie. Parce qu'indubitablement, il fait une expérience personnelle très profonde, un enfer, au purgatoire, au paradis. Bon, personne ne lit le paradis d'ailleurs, parce que c'est trop difficile. Et personne n'a envie d'aller au paradis, c'est trop. Vous savez pourquoi? Parce que ça jouit trop. Et là, c'est cette peur, voire même cette haine, ou ce ressentiment contre la jouissance qui habite l'être humain, qui au fond se sous-estime, ne s'aime pas. Et là, vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas d'accès au temps. Réfléchissez une seconde, si vous êtes en état amoureux, tout va plus vite. Le temps change complètement de nature. Hein, sinon, vous allez d'un endroit à un autre, un peu dépité par vos aventures. Mais si jamais ça s'allume, quelque part dans la réciprocité éventuelle, dans la rencontre, ce qui se passe dans Les Voyageurs du Temps avec la fille qui tire à côté, là, dans le centre de tir, et où ils ont une liaison très particulière, eh bien, le temps change de nature. Les amoureux sont seuls au monde parce qu'ils disposent d'un temps, d'un espace libre, dans un jeu que devient pour eux le temps.
Pour revenir sur quelque chose que vous venez de signaler, Philippe Solers, par rapport à ces romans qui, à peine émergés, disparaissent, vous, en tant qu'éditeur, vous n'avez plus de pouvoir de maîtrise minimale sur les choix à faire dans la machine éditoriale que constitue Gallimard?
Écoutez, je dirige cette revue qui s'appelle L'Infini, qui en est à ses 25 ans d'existence, ce dont personne ne semble s'apercevoir. Il y aura un jour à faire alors un portrait de moi en tant qu'éditeur, c'est-à-dire avec des publications extrêmement serrées et sérieuses la plupart du temps. Songez par exemple au roman magnifique de Yannick Enel l'année dernière qui s'appelait Cercle. Là, en ce moment, avec son camarade François Mérodis, ils font une revue magnifique qui s'appelle, que je vais vous offrir d'ailleurs, puisqu'elle est consacrée entièrement à la gnose. Voilà. Et leur livre s'appelle Prélude à la délivrance. Il y a des considérations, justement, sur l'espace et le temps, magnifiques. Notamment une analyse qui n'a jamais été faite de Moby Dick de Melville, hein, comme livre absolument sacré, entre guillemets. Donc, voilà, ça m'intéresse d'avoir un dialogue avec des gens plus jeunes. C'est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui que lorsque j'étais jeune moi-même. Pourquoi ? Parce que tout est rentabilisé, pressé, il faut que les livres aient du succès immédiatement, le marché est implacable. Et alors qu'encore une fois, ce qui compte, c'est ce qui dure. C'est Proust, c'est par exemple, et qui est là, tout frais, n'est-ce pas, à votre disposition.
Chose intéressante, on parlait de cette progression entrecoupée, de cette progression par surgissement dans votre roman, Philippe Solers. C'est à mettre en parallèle, je crois, avec ce que le narrateur appelle la pratique du sommeil entrecoupé. Il se réveille la nuit pour interrompre son rêve. Que lui procure cette pratique-là ?
Eh bien, justement, une façon d'être le plus constamment possible, à la fois dedans et dehors. De passer du dedans au dehors, du dehors au dedans. Il y a une ville absolument magique pour ça, où j'ai passé beaucoup de temps, et qui m'a servi d'ancrage, mais écrivons-le avec E-N, C-R-A-G-E, c'est-à-dire vraiment une ville qui provoque chez moi un état d'euphorie, à cause de ça. Le dedans, c'est le dehors, c'est le dedans. C'est Venise. Quand vous êtes à Venise, là, en vous garant évidemment du spectacle, des touristes, etc., mais c'est possible, j'ai fait ça pendant 40 ans, printemps et automne, vous êtes constamment entre les deux. Vous dormez, mais c'est comme si vous étiez réveillé, et vous êtes réveillé, vous avez l'impression d'être dans un rêve éveillé, parce que vous passez sans arrêt du dedans au dehors. Ben, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une ville absolument magique, avec alors un éclat de création considérable, selon que vous allez de Palladio au Titien, dans les églises. Je rentre pratiquement jamais dans une église en France, parce que c'est sinistre, sauf à Notre-Dame pour allumer un cierge à la mémoire de Claudel. Mais enfin, en Italie, l'Italie, vous comprenez. Il y a des lieux privilégiés, tout de même. Voilà, je relis en ce moment La Chartreuse de Parme de Stendhal. C'est un livre absolument merveilleux, lui. C'est des Milan, c'est Rome, etc. Je suis invité souvent à faire des voyages lointains, que ce soit au Japon, en Inde, ou ailleurs, pour donner des conférences, etc. Je dis non, puis après j'ai fait semblant de dire oui. Et puis j'ai même des billets qui me conduisent à l'aéroport, et au dernier moment, c'est curieux, je me retrouve toujours en Italie.
Je ne m'entraîne pas au tir pour tuer, mais pour faire vivre et revivre. Parlant d'un voyageur céleste de l'Antiquité, un excellent voyageur du passé lui fait dire « Je vois de loin, j'atteins de même. » Parfait sniper avec arc et flèche. Tout est mystère dans l'amour, ses flèches, son carquois, son flambeau. Son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'approfondir cette science. Qui connaît encore le mot carquois ? Qui s'intéresse à l'amour comme science ? Philippe Solers, Les voyageurs du temps.
Pour ce troisième volet aujourd'hui, Philippe Solers, nous arrêtez toujours dans cette idée du surgissement sur votre pratique et votre goût pour le tir. Vous l'avez suggéré au passage tout à l'heure par rapport à ce narrateur qui pratique le tir dans le livre, dans le roman, tout près d'ici, au ministère de la Défense, dans un stand fermé, comme ça. D'où vient cette attirance pour le tir chez votre narrateur et peut-être chez vous-même ?
Écoutez, il paraît que c'est quelque chose d'héréditaire. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, mon grand-père maternel, qui était escrimeur et tireur, a été une des personnalités importantes du noble jeu des armes. Et j'ai encore ses trophées à la maison. Il gagnait des choses dans les tournois internationaux, etc. Bon, il paraît que c'est héréditaire parce que j'ai même une sœur qui était extraordinairement, paraît-il, douée pour le tir. Elle a fait des chasse, elle peut vous abattre une assiette qui vole, etc. Bon, mais c'est une façon de se concentrer au maximum et de viser, de se viser soi-même. Vous savez, citation, mais le problème, c'est pas les citations, c'est de mettre dans le mille. C'est trouver justement ce qu'il faut au moment où il faut, comme si vous étiez en plein dans la cible. Et la cible, c'est le sens absolument improbable. Le sens qui surgit, comme le temps lui-même à ce moment-là, et qui vous laisse dans l'émerveillement d'une séance de tir. Est-ce que j'aurais fait du tir à l'arc, comme ça, en Chine, au Japon, etc. C'est à peu près la même chose, il y a toute une métaphysique du tir. C'est-à-dire, sur quoi tire-t-on ?
Tire pour faire surgir le silence, pour éprouver, comme l'a dit quelqu'un, la grande douceur du repos dans la vitesse, ou, comme l'a dit un autre, dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Le tireur est un poisson soluble et solitaire. Il vise le mur du son. C'est un seul œil dans la cible. Il trouve sa tête et son cœur. Il s'éclate pour augmenter sa lucidité. C'est un kamikaze de lui-même. Il fonce sur des porte-avions et des tours. Ça le dope, ça le guérit, ça le rapproche de la vraie sortie. La vraie sortie, laquelle ? Comme l'a dit un des voyageurs du temps, la mort est notre salut, mais pas celle-ci. Il y aurait donc une fausse mort, générale, animale, et une autre, très mystérieuse. Philippe Solers, Les Voyageurs du Temps.
Sur quoi tire-t-on ? Voilà. En tout cas, moi, sur rien de vivant. J'ai horreur de ça. Mais je pense que c'est très intéressant de se vérifier soi-même au tir. On se vérifie dans l'écriture. On sait. Je sais très bien quand mon écriture est un tout petit peu embrouillée, que je ne vais pas bien. Là, quand je vais bien, mon écriture coule exactement comme un plan d'eau, ridé, comme ça. Eh bien, au tir, c'est pareil. Si vous ne savez pas très bien comment vous allez, vous le saurez tout de suite en vous adressant à une cible.
William Blake, Philippe Solers, parle du coup de feu provoqué par un poème. Cette conception de la poésie, de l'écriture poétique, vous la partagez ?
C'est très juste, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui est fulgurant. Et ce qui est fulgurant n'a rien d'obscur. C'est au contraire un trait de lumière, qui peut être noir d'ailleurs, mais enfin, un trait de pensée. La pensée est quelque chose de très rare. La pensée, hein, Denken, hein, le remerciement, comme dirait, c'est un don. C'est quelque chose qui est donné et, en effet, le coup de feu me paraît une bonne expression. Le temps est un coup de feu dans le feu, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fulgure. Après tout, les éclairs ont été révérés, souvent avec peur, avec crainte et tremblement, comme la manifestation, malgré tout, du dieu, pour parler en grec. L'éclair, par exemple, qui surgit par très beau temps. Heidegger raconte qu'il a vu ça en Grèce, moi aussi. Le ciel est bleu, tout est calme. Et tout à coup, vous avez un éclair. Alors ça, vous avez comme qui dirait la présence du Dieu. Il m'est arrivé ça souvent, je vous le dis, avec des ouailleurs, souvent. Je m'entends dire, les dieux sont là. Alors tout à coup, ils sont là, ils ne restent pas longtemps, ils sont furtifs, mais ils sont là tout à coup. Et ça, c'est pareil lorsque vous avez une formulation parfaite.
Guerre. Enfant, certains ciels ont affiné mon optique. Tous les caractères nuancèrent ma physionomie. Les phénomènes s'émurent. À présent, l'inflexion éternelle des moments et l'infini des mathématiques me chassent par ce monde où je subis tous les succès civils, respectés de l'enfance étrange et des affections énormes. Je songe à une guerre de droit ou de force, de logique bien imprévue. C'est aussi simple qu'une phrase musicale. Arthur Rimbaud, Illumination.
Que ce soit en poésie, en peinture, en architecture, en musique, là, vous avez l'impression que les dieux sont là. Alors, tout le monde n'a pas le même dieu, mais enfin, Bach en a un qui tient le coup. Hein. Là, vraiment, on sent qu'il y croit. C'est le cinquième évangéliste.
Voyez maintenant ce personnage un peu voûté arrivant un soir de neige au château de Sanssouci chez Frédéric de Prusse. Ce dernier est à table, entouré de ses convives habituels, en perruqué très libre d'esprit, en train de débiter des blasphèmes. Soudain, un laquais s'approche du roi et lui murmure quelque chose à l'oreille. Le monarque se lève, obligeant tout le monde à en faire autant, et laisse seulement tomber « Messieurs, le vieux Bach est arrivé. » On le met tout de suite au clavecin, le vieux Bach, peu importe qu'il soit crevé ou malade. Le roi l'admire et le jalouse. Il se veut lui-même musicien et flûtiste. Il compose des bagatelles qu'il faut louer à l'excès. « Vous m'écrirez bien un menuet, vieux Bach. » « Certainement, sire. Mais jouez-nous quelque chose de votre invention. » Le vieux Bach s'exécute. Il sait qu'il n'est pas là, mais dans deux siècles ou plus. Il se fout éperdument de savoir s'il y aura ou pas des oreilles pour l'entendre. Il joue la chose même. Concentré sur son clavier, il est évident qu'il prie. Mais qui ? Quoi ? Le royaume des notes sensibles, les mathématiques discrètes. Ça ne commence pas, ça ne finit pas. Ça coule de sources rythmiques. Une fois parti, il pourrait continuer toute la nuit. Le roi trouve qu'il exagère, fait trop entendre les notes, emploie trop de notes. Les fugues l'ennuient, c'est trop compliqué, élitiste. Et puis, la virtuosité du vieux est gênante, insultante. Il est soit trop lent, soit trop rapide. La musique pour la musique, bon, ça va. Philippe Solers, Les voyageurs du temps.
Parole très tranchée, parole très incarnée que celle de l'éditeur et écrivain français Philippe Solers. Il nous parlait là de son dernier livre aux éditions Gallimard, Les voyageurs du temps. Nous reviendrons demain dans un dernier entretien sur ce très bel ouvrage. Vous trouverez ces références sur notre site entrelesignes.rsr.ch, un site qui vous permet par ailleurs de télécharger nos émissions durant un mois après leur diffusion.